Je suis tout à la fin de l'évangile de Marc. Jésus a promis que des signes miraculeux accompagneraient la proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile. En effet, ces signes furent normatifs pour l'époque des apôtres. Ce sont essentiellement eux, à quelques rares exceptions près, qui firent des miracles, ce que confirment plusieurs passages du Nouveau Testament. J'en cite trois. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires. Fin de citation. Je finis l'évangile de Marc. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Versets 19 à 20. Après sa résurrection, Jésus eut un ministère de 40 jours sur terre, puis il alla s'asseoir à la droite de Dieu. Cette position est à la fois une de repos, car il avait terminé son œuvre, et une d'autorité et d'honneur. Il prit possession de son royaume céleste, ce qui atteste sa souveraine dignité et son pouvoir universel. Maintenant, il est glorifié avec la majesté qui était déjà sienne avant la création du monde. L'œuvre que Jésus-Christ voulait personnellement accomplir sur terre était terminée. Par contre, la proclamation de la bonne nouvelle à tout être humain par le biais des disciples ne faisait que commencer. Les apôtres allèrent donc et prêchèrent l'évangile de partout, loin et à proximité, à Jérusalem, en Israël et jusqu'aux quatre coins de la terre. Le contraste entre le récit de Marc que je viens de terminer et le Lévitique, qui est le prochain livre que je vais parcourir, est saisissant. Nous allons, pour ainsi dire, passer de la lumière à l'ombre. Alors que l'Évangile révèle le Dieu tout-puissant en chair et en os, la loi de Moïse, avec ses règles complexes, encombrantes et inefficaces, l'annonçait très vaguement, comme le précisent d'ailleurs les passages suivants tirés du Nouveau Testament, et que je cite « L'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Les prêtres sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. » Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Et sur ces paroles, je passe au Lévitique. Le Lévitique, voilà un drôle de nom pour un livre. Ce titre provient du premier mot du texte qui veut dire « il appela ». Ceci est intéressant par le fait que le mot « église » signifie également « ceux qui sont appelés ». Il y a donc une certaine similarité entre l'enseignement contenu dans le Lévitique qui concerne les Israélites et la foi chrétienne qui s'adresse à tout le monde. Au travers les siècles, nombre de théologiens de renom considérèrent ce livre comme un des plus importants des textes sacrés. Une bonne compréhension de son message ferait cesser toutes les sectes dégénérées issues du christianisme. Dans ce livre, on rencontre plus de 30 fois la formule « l'Éternel parla à Moïse ». C'est donc bien lui l'auteur. La terminologie juridique des cinq livres de Moïse correspond à celle des codes de loi mésopotamiens du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, du point de vue historique et archéologique, les institutions du Lévitique datent bien de l'époque de Moïse. Les Israélites font maintenant du surplace en marquant le temps au mont Sinaï, l'endroit géographique où commence et finit le Lévitique. Ils se préparent à pénétrer dans le pays promis, la Palestine. Après les avoir délivrés du joug des Égyptiens, l'Éternel est venu faire sa demeure au milieu de leur camp, dans le tabernacle. C'est là un immense honneur et pour Israël une source de grande bénédiction. Mais à ce privilège de posséder Dieu si près de lui s'attache aussi un réel danger, car ce peuple est souillé. Comment des hommes coupables pourront-ils bénéficier de la présence au milieu d'eux d'un Dieu saint? Il faut pour cela que le peuple accepte d'obéir aux règles et commandements stricts que l'Éternel va établir, et tel est le but des institutions qui sont établies dans le Lévitique. « Je suis l'Éternel qui vous rend saint. » Cette parole résume tout ce livre en quelques mots. Celui-ci se présente donc clairement comme la suite de l'Exode, qui se terminait par le récit de la fabrication très minutieuse du tabernacle ainsi que de sa mise en service. Le Lévitique fait le récit des cérémonies célébrées à l'occasion de l'entrée en fonction des prêtres en exécution des ordres donnés par l'Éternel à Moïse. Le contenu de ce livre suit une certaine logique. Maintenant que la fabrication du tabernacle est terminée, le Lévitique indique ce qu'on va y faire. Une première section décrit le rituel sacrificiel. Tout d'abord, les prêtres entrent en fonction, ce qui est décrit par le récit des cérémonies de leur investiture et de leur entrée en service au tabernacle. Des règles de pureté rituelle précisent ensuite certaines des conditions que l'Israélite devait respecter pour pouvoir rendre un culte à l'Éternel. Un des chapitres est consacré au rituel du jour le plus important de l'année cultuelle, le jour des expiations ou Yom Kippour. Dans son ensemble, le Lévitique contient essentiellement des textes législatifs. Ceux-ci sont cependant insérés dans le cadre du récit de Moïse qui continue à faire le pont, le trait d'union, entre l'Éternel et le peuple. Le livre rappelle que les règles du culte tirent leur sens de l'arrière-plan historique de la nation qui a été fondée sur la base de l'alliance du Sinaï. C'est là en effet que l'Éternel, en tant que suzerain, a établi un contrat avec Israël, son vassal. Toutes les règles complexes et contraignantes, et que j'ai même appelées barbantes pour nous occidentaux, ont pour raison d'être la cohabitation du Dieu trois fois saint avec un peuple entaché de fautes. C'est ce qui fait que le thème central du Lévitique est la sainteté. La quasi-totalité du livre peut être considérée comme un énoncé des conditions auxquelles les Israélites seront déclarés saints pour l'Éternel. Mais qu'est-ce que cela veut dire au XXIe siècle, en Occident, dans une société sécularisée où il est interdit d'interdire et où tous les tabous sont tombés? Les cheveux peints en bleu, des agrafes métalliques insérées n'importe où, le sexe sans condition, la recherche effrénée du plaisir et des sensations extrêmes laisse tout le monde indifférent, l'œil éteint. La notion de sainteté est certainement la seule qui puisse encore choquer une génération blasée au possible. Dire que Dieu est saint signifie qu'il fait l'objet d'un culte, qu'on a pour lui la révérence et la vénération qui sont dues à la divinité seule, telle que nos ancêtres la concevaient. La sainteté appelle le plus profond respect et l'adoration. La notion est proche de celle de sacré, dont on s'approche en étant sur ses gardes et devant laquelle on s'incline. Lorsque l'Éternel a appelé Moïse du milieu du buisson ardent, celui qui avait l'air de brûler, il lui a dit de quitter ses sandales car le lieu sur lequel il marchait était sacré. Que Dieu soit saint implique donc que je ne m'approche pas de lui n'importe comment. Il y a des conditions, des signes de la plus grande déférence à respecter pour se tenir en sa présence et pour lui rendre un culte. Le peuple d'Israël doit devenir saint afin de pouvoir rendre ce culte qui soit acceptable à l'Éternel. Les prêtres sont, eux, d'un niveau de sainteté supérieur, car ils ont un rôle cultuel que ne peuvent jouer les autres Hébreux. Il y a donc divers degrés de sainteté. Celui du simple Israélite, celui du Lévite qui porte les objets sacrés, celui du prêtre qui officie lors du culte et celui du grand prêtre auquel certains actes très spécifiques sont exclusivement réservés. Être saint, c'est respecter certaines règles afin de pouvoir rendre un culte à Dieu. Parce qu'il est saint et que je ne le suis pas, je ne peux vivre en sa présence ni m'approcher de lui comme je le ferais d'un autre être humain. Tel est le sens de l'impératif qui, dans le Lévitique, est répété à plusieurs reprises. Soyez saints, car je suis saint. À partir du sanctuaire, la sainteté doit se répandre dans toute la vie de tous les habitants du camp. Le péché, ce mot désuet peut-être, mais dont la signification n'a pas changé, le péché, disais-je, doit être continuellement contenu, refoulé, supprimé. Si le peuple prend à cœur cette parole qui revient si souvent et que j'ai déjà citée, « Soyez saints, car je suis saint », il y aura pour lui prospérité spirituelle et temporelle. Chez les peuples païens, les conditions de sainteté étaient avant tout rituelles. Une des particularités de la loi de Moïse est de faire une large place à des conditions d'ordre moral, qui sont d'ailleurs rappelées et développées dans le Nouveau Testament. Les règles de pureté rituelle, parfois très contraignantes, sont un moyen de faire comprendre aux Israélites ce que représente pour Dieu leur impureté morale. Les lieux, les objets et les personnes étaient consacrés. Ce qui veut dire qu'on leur assignait une fonction cultuelle par des rites particuliers comme l'onction d'huile, par exemple. Le but du livre du Lévitique est d'énoncer les règles qui permettent d'atteindre l'état de sainteté. C'est pour cela que sacrifice, rituel, liturgie, instruction, purification, convocation, jour saint, observation, condition et avertissement remplissent ce livre. Nous trouvons d'abord indiqué toute une série d'impuretés qui ne peuvent être lavées par des sacrifices et qui se produisent à l'occasion de la nourriture animale, du mariage, des travaux agricoles et de la mort. Toutes ces souillures doivent être absolument évitées par celui qui veut demeurer au bénéfice des institutions bienfaisantes en vigueur alors en Israël. Enfin, dans un dernier groupe d'ordonnances, il est parlé de solennités religieuses, du sabbat, des trois grandes fêtes annuelles, des années sabbatiques et du jubilé, qui sont destinées à entretenir la piété nationale en réveillant périodiquement dans le peuple de Dieu le sentiment de la sainteté dans laquelle il doit vivre. S'il profite de ces institutions, la bénédiction divine le comblera de bien, comme aussi dans le cas contraire, la sainteté de son Dieu deviendra la cause de sa ruine. Toutes les prescriptions contenues dans ce livre maintiennent une stricte distinction entre le sacré et le profane, signe de la distance qui subsiste entre l'Éternel et son peuple. En définissant les conditions de sainteté, le Lévitique s'adresse aussi à moi, homme occidental du XXIe siècle, même si son but originel était de permettre aux Israélites de vivre leur relation d'alliance avec l'Éternel et d'accomplir leur vocation de lui rendre un culte. Avant tout, l'Israélite coupable, comme moi, doit pouvoir s'approcher de l'Éternel. Il en est indigne sans doute, mais Dieu lui donne le droit de présenter à sa place des animaux sans défaut, et cela par les mains d'hommes consacrés dans ce but, ce sont les prêtres. Il y a des souillures qui proviennent de l'infirmité de la nature humaine et de la maladie. Mais au fond de toutes ces impuretés particulières, il y en a une générale qui s'étend à tous les instants de la vie, ainsi qu'à tous les membres de la congrégation, jusqu'au grand prêtre inclus. Le sanctuaire même en est atteint. Il faut donc une grande purification générale et collective qui se répète d'année en année. C'est celle qui s'accomplit le jour des expiations, le jour appelé Yom Kippour. Cette institution est le couronnement de toutes les précédentes qui ont en vue les différentes formes de purification. Le livre du Lévitique enseigne donc que le chemin au Dieu des cieux est par le sacrifice. La raison est que le peuple commet des fautes qui compromettent la sainteté de Dieu. La souillure appelle une purification. Celle-ci se fait par le sang. C'est là le rôle des sacrifices qui ont avant tout une valeur expiatoire. La victime se substitue à l'adorateur qui transfère sur elle sa culpabilité en posant ses mains sur elle et en confessant ses fautes. C'est le sens de l'expression « odeur apaisante » que l'on rencontre même à propos de l'offrande végétale. Le fumet qui monte du sacrifice vers l'Éternel apaise sa colère envers le coupable. Le système sacrificiel enseigne que les fautes ne se réduisent pas à un acte qui peut être englouti dans le passé. Il nécessite une expiation sans laquelle il ne peut y avoir réparation du dommage subi par la sainteté de Dieu. De plus, ce pardon est très imparfait, car il est accordé à crédit seulement en attendant le parfait sacrifice, celui du Christ. Comme le note l'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, ceci dénote l'inefficacité des rites pourtant complexes et contraignants exigés des Israélites. En outre, ils ne permettaient de régler en partie que des fautes involontaires ou réparables, les crimes graves devant être sanctionnés par la peine capitale. En parcourant le Lévitique, on est frappé par la quantité des sacrifices qui devaient être offerts, par les limites de leur pouvoir et par le fait qu'ils n'ôtaient pas vraiment la faute, mais la couvraient seulement de manière à ce qu'elle soit voilée aux yeux de Dieu. Ainsi se révèlent les limites des institutions cultuelles établies par Moïse, pourtant sur l'ordre de l'Éternel, et aussi la nécessité d'un moyen autrement plus efficace pour régler véritablement et définitivement le problème de la culpabilité de l'homme devant le Créateur. La solution, bien sûr, est la mort expiatoire du Christ. Tout le rituel établi par Moïse est vu par le Nouveau Testament comme une préfiguration de l'œuvre de Jésus. Le livre du Lévitique, considéré à la lumière du Christ, rehausse encore davantage la valeur infinie de son sacrifice sur la croix. Il a accompli une œuvre que le système lévitique établi par Moïse ne pouvait absolument pas réaliser. Il a réellement effacé, une fois pour toutes, la totalité des fautes passées, présentes et futures de tous ceux qui placent en lui et en lui seule leur confiance. Sa dernière parole sur la croix est un seul mot dans l'original. Il est traduit par tout est accompli. Mais en fait, ce mot était utilisé pour dire qu'une facture était payée dans sa totalité. Donc, dans notre compréhension, le dernier mot du Christ avant de mourir fut « Tout est payé ». Je vais maintenant commencer à parcourir le premier chapitre du Lévitique dont le thème est l'Holocauste. Dans ce sacrifice, la victime, après avoir été immolée, est entièrement consumée par le feu sur l'autel d'airain qui se trouve à l'entrée du tabernacle, mis à part la peau, qui, elle, revient au prêtre. C'est la plus ancienne des offrandes à Dieu connues de l'homme. Abel, qui fut assassiné par son frère Caïn, offrit un holocauste à l'Éternel. Noé, ainsi que Abraham et tous les patriarches firent de même. C'est aussi le sens du sacrifice du Christ tel que l'apôtre saint Paul l'exprime dans le Nouveau Testament lorsqu'il dit, et je le cite, « Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Fin de citation. On offrait un holocauste pour toute la nation d'Israël chaque matin et chaque soir, un double holocauste le jour du sabbat et d'autres encore les jours de fête. Il accompagnait d'autres sacrifices et pouvait être offert par n'importe qui, israélite ou non. Trois catégories de victimes convenaient, des bœufs ou taureaux, des moutons, brebis, béliers ou agneaux, et troisièmement, des boucs ou des chevreaux. Et enfin, on pourrait dire quatrièmement, des oiseaux, tourterelles ou pigeons. Le choix dépendait des ressources de ceux qui les offraient. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.